On va arrêter là pour l'instant. La Bible a dit que il avait une taille de 6 coudées et 1 empan, ce qui nous donne environ 3 mètres, 9 pieds 10 pouces. C'est un peu plus d'un pied que notre M. Wardlow de tantôt, de plus grand. Ah, il aurait pu être un bon joueur de basket. À ce grandeur-là, là. Le panier était à quoi? À 9 pieds? 10 pieds? Il manque à 2 pouces. Son armure pesait entre 60 et 80 kilos. C'était pas un pic, le gars, là. C'était pour avoir une armure de cette pesanteur-là sur lui, entre 132 et 176 livres, il était costaud. Juste sa lance pesait 7 kilos, 15 livres, sa lance. Je lis ça puis je suis fatigué. Ça n'a pas de bon sens. Je me souviens quand que j'étais jeune, au Colisée de Trois-Rivières, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Jean Ferré? André the Giant, ça te dit quelque chose? C'est lui, Jean Ferré. 7 pieds 4. Il mesurait 7 pieds 4. Il pesait 500 quelques livres. J'y ai touché. C'était extrêmement impressionnant. Puis dans notre texte, ce que j'ai trouvé impressionnant aussi, regardez au verset 7, à la fin du verset. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Imaginez, là, essayez d'imaginer la scène, là. Le colosse là, de 9 pieds, 10 pouces, puis il y a un monsieur devant lui qui porte ses armes. Si moi, j'aurais été le chef de l'armée de Philistins, là, j'aurais pas mis le plus grand de mon armée devant Goliath. J'aurais mis un petit narfé, style Michel Bourque. Parce que, tu sais, il me semble que ça met beaucoup plus en valeur Goliath. N'est-ce pas? J'ai demandé la permission à Michel pour dire ce que je viens de dire en passant. Là. Je reviens à la photo de tantôt de M. Wardlow. Quand on le regarde comme ça, il a l'air grand. Regardez bien la photo après. Le monsieur à côté, là, c'est pas son gars, c'est son père. Puis la photo n'est pas truquée, là. Il n'y a aucun trucage dans cette photo-là. Savez-vous comment il mesure son père? Il mesure 1,82 m. 5 pieds, 11 pouces et demi. Je mesure 1,83 m. Mettez-moi là, là. C'est ça que j'ai de l'air à côté de M. Wardlow. Je ne sais pas si vous voulez. J'essaie de vous montrer, là, que Goliath, là, en ayant le monsieur en avant de lui, le porteur d'armes, là, me semble que ça devait amplifier son imposante grandeur. Puis encore mieux, pour vraiment le montrer, je vais demander à Jeff de venir ici. Goliath, grandeur nature. Regardez là. 9 pieds, 11 pouces. Presque 10 pieds. Puis ça ici, c'est calculé aussi en passant les 2 par 4 qui dépassent. Là. C'est la continuité de ses jambes. Là. OK? Je veux juste que vous réalisiez là. Que David il s'en allait affronter. Là. OK? Goliath. C'est impressionnant. Hein? Continuons au verset 8. On a parlé de Goliath, mais là, Goliath, à un moment donné, il rouvre la bouche. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Goliath lance un défi, tout un défi. Puis au verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Comprends? Gardez-moi ça. Il vient de lancer un défi. Qui veut se pincer contre moi? Je comprends qu'il est effrayé, s'épouvanter, trembler, craindre, briser. Mettez-en. Crainte, avoir peur, frayeur, terrible. Je comprends, regardez-moi ça. Puis j'imagine le roi Saül, le leader de l'armée d'Israël, se retourner de bord, puis regarder son armée, puis dire, qui va y aller? Puis il me semble voir l'armée en arrière. Tu sais, il n'y a pas personne qui voulait se battre contre ce monstre-là. Puis n'oubliez pas que Saül était le leader de l'armée qui dépassait tout d'une tête. Pensez-vous que ça aurait pu être lui qui aurait dû l'affronter? C'était lui le plus grand. Mais Saül, il ne voulait rien savoir, Saül. La parole nous dit que lui aussi, Saül et tout Israël entendirent ces paroles et ils furent effrayés. Puis la crainte que Saül a eue, ça s'est propagé à tout Israël. Le leader s'effondre. On va parler de David maintenant. Versets 12 à 15. On retourne dans le texte. 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses trois fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. 14. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Il n'y a rien qui est mentionné sur la stature de David. On ne dit pas ses 6 mesures, 6 pieds. Il n'y a rien de mentionné là-dessus. Ce qui est dit, c'est qu'il est le plus jeune des fils d'Isaïe qui a eu 8 enfants, 8 gars en plus. Puis que son père était vieux, qu'Isaïe était vieux, puis qu'il s'est mentionné que les 3 fils d'Isaïe, les 3 plus vieux, ils étaient à la guerre avec Saül. La job de David, au verset 15, on l'a lu tantôt, c'était de faire paître les brebis. David était le plus jeune. Il était un joueur de harpe. On le voit ça, souvenez-vous, lorsque l'Esprit de l'Éternel est parti de Saül. Il a demandé à... Allons-y, au chapitre 16, verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit les paroles et dit, « Voici, j'ai un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier, parlant bien et une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Si on va au verset... Fin du verset 21, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Fait que la job que David avait, c'était, il jouait de l'harpe pour Saül, il était son porteur d'armes, puis il était berger, il s'occupait des brebis de son père. Au verset 16, il est mentionné que le Philistin s'avançait matin et soir, puis il se présentait pendant 40 jours. 40 jours, matin et soir. Puis pendant ces 40 jours, il n'y a pas personne qui s'est levé et qui a accepté le défi. Personne. Les versets 17 à 22 nous parlent qu'Isaïe, le père de David, veut l'envoyer sur le champ de bataille pour prendre des nouvelles de ses fils, de ses trois plus vieux qui sont là-bas. Puis il leur donne la nourriture, puis il dit à David, « Vas-y là-bas, là, puis donne-moi des nouvelles de mes fils, comment ils vont. Puis viens me dire comment que ça va. » Fait qu'Isaïe, il envoie David avec la nourriture, puis au verset 22, David arrive au champ de bataille. Verset 22. « David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. » David avait fait exactement ce que son père lui avait dit de faire. Il avait amené la nourriture, puis là, il est couru vers les rangs de l'armée. Puis il a demandé à ses frères comment ils se portaient. David, sa job était faite. Il avait fait ce que son père avait dit. Il aurait pu se retourner de bord et s'en aller chez eux. Puis aller dire à son père, « Ils vont bien, mes frères vont bien. » Mais Dieu avait planifié quelque chose d'autre. Dieu avait planifié que David entende Goliath parler. Puis de versets 23 à 31, on va le lire. « Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. On sait pourquoi. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, le plus vieux des frères qui n'est pas de bonne humeur après le plus jeune. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et qui a... Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Que donc-je fais? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. » David, il se retourne et il dit à l'armée, là, « Les gars, il faut faire de quoi, là? Ça n'a pas de bon sens. Qui va s'occuper de ce grand fanal-là? » Puis là, pas personne ne bougeait. Ce que David n'acceptait pas, c'est que Goliath insultait l'armée de Dieu. Il insultait Dieu. David connaissait ce que Dieu pensait concernant quelqu'un qui insultait le peuple de Dieu. Genèse 2, 3. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » David savait que Dieu garde toujours ses promesses. Personne de l'armée d'Israël n'osait relever le défi. Puis il y avait toute une récompense, là, quand on regarde le texte qu'on a vu, la récompense, là, c'était pas rien, là. Comblera de richesses, tu devenais riche. Tu avais la fille du roi. Tu avais la fille du roi. Tu devenais le gendre du roi avec tout ce que ça implique, tous les privilèges. Et ta maison sera enfranchie, ou si vous aimez mieux, exemptée de taxes. C'était toute une récompense. C'était tout un privilège, là. Mais il n'y a pas personne qui a osé. Je comprends. C'était effrayant, voire aucune chance. Combat complètement inégal. Mais il y a quelqu'un qui, lui, est prêt à y aller. Verset 32. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Mais ça, c'est légitime, qu'est-ce que Saül dit, là? C'était encore un enfant. T'as pas de chance. Puis Saül, on l'a vu tantôt, il aimait David. Il voulait pas aller le laisser battre contre Goliath. Qui aurait pu imaginer, à ce moment-là, que David était pour relever le défi? Puis avant même qu'il confronte Goliath, David avait des obstacles. Premier obstacle, il était jeune. Deuxième obstacle, il ne faisait même pas partie de l'armée. Son frère aîné, Eliab, tantôt, on l'a vu qu'il en a dévissé toute une. Puis ça prenait la permission du roi. Mais ce n'est pas ces obstacles-là que David, qui a fait arrêter David. Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37, David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. L'Éternel. Qui a sauvé David des lions et des ours dans le passé? Et qui sauvera David du méchant Goliath? L'Éternel. David était convaincu, puis sa foi était inébranlable. Convaincu de ça. Puis à la fin du verset 37, la réponse de Saül est assez surprenante. Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » C'est surprenant. N'oubliez pas que l'Esprit de l'Éternel n'était plus en Saül. On dirait que là, est-ce qu'il pensait vraiment sérieusement que l'Éternel pouvait aider David? Peut-être. mais il laisse aller avec sa bénédiction. Il ne leur tient même pas. Ensuite, Saül offre ses armures à David, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Une des raisons, sûrement, c'est que c'est trop grand pour lui, dans un. Saül, on a vu tantôt qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Fait que ça devait être beaucoup trop grand pour lui, puis il n'était pas à l'aise. Fait que c'est pour ça qu'il a décidé d'enlever tout ça. Fait que, en plus de vouloir se battre contre Goliath, il n'y a même pas d'armes. Il n'y a même pas d'épée. C'est quasiment fou, là. Tout ce qu'il y a, c'est un bâton, puis ça fronde. Puis il semblerait que la fronde était utilisée justement par les bergers qui l'utilisaient lorsqu'ils s'occupaient de le brebis. Puis quand il arrivait un animal, il envoyait ça derrière le coco, là, puis l'animal, c'était pas long qu'il partait. Puis une personne habituée nous a dit que il pouvait lancer la roche à plus de 160 km/h ou 100 000 à l'heure. Puis qu'elle pouvait atteindre une distance de 100 verges, distance de terrain de football. Verset 41, le duel débute. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Tu es un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » L'armée d'Israël, incluant Saül, il devait être là, puis il devait retenir le souffle. Puis de l'autre côté, les Philistins, eux autres, ils devaient rire dans leur barbe. Ils vont en manger toute une. Il y en a rien qu'un petit bonhomme qui arrive là, même pas d'armes, contre notre géant Goliath. Verset 46. Aujourd'hui, David parle, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Et toute cette multitude, verset 47, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David claqua des deux jambes, claqué ensemble, il courut. Hey, moi, j'en reviens pas. Ça me dépasse. Il court vers Goliath. Réalisez-vous la confiance qu'il avait totale en Dieu, en l'Éternel. Il courut vers Goliath. Il avait une confiance incroyable en son Dieu. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, verset 50, Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Dieu donna à l'armée d'Israël une éclatante victoire. J'ai trois points pour la conclusion. Mon premier point, Dieu utilise des gens ordinaires. Corinthiens 26, 31 nous dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qu'ils sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel est de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Dieu peut faire de grandes choses au travers des gens bien ordinaires. Avant d'être le roi, David était un homme ordinaire. Il était berger, un simple berger, porteur d'âme pour Saül, puis il jouait de l'arpe. Dieu peut vous utiliser aussi, puis Dieu peut m'utiliser. C'est comme ça qu'il fonctionne, comme ça que Dieu fonctionne. Il utilise des gens simples, faible comme moi, faible comme vous. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ceux qui ont Facebook, vous avez probablement vu ce texte-là que j'ai trouvé pas mal à propos. Jacob était un tricheur. Pierre avait une mauvaise attitude. David a eu une aventure. Noé a été ivre. Jonas s'est enfui de Dieu. Paul a été meurtrier. Gédéon était insécure. Myriam était médisante. Marthe était une femme inquiète. Thomas était un sceptique. Sarah était impatiente. Élie était maussade. Moïse bégayait. Zachée était petit. Abraham était vieux et Lazare était mort. Maintenant, quelle est votre excuse? Dieu peut-il vous utiliser ou pas? Ça, c'est bien. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie l'appelé. Me voici, Seigneur. Deuxième point, Dieu forme ces gens ordinaires. Dieu avait formé David pour cette bataille-là. Pendant qu'il prenait soin des moutons, sûrement qu'il se pratiquait avec sa fronde. Puis à d'autres occasions, il devait pratiquer son harpe. Dieu l'a formé. Puis à chaque occasion que Dieu envoyait un animal, lorsque David était berger, à chaque occasion qu'il envoyait un animal, David le combattait, puis sa confiance en Dieu augmentait. Puis lorsqu'il est venu le temps de faire face au géant, il s'est mis en pleine confiance à la puissance de Dieu. Dieu, il a un plan pour vous. Il a un plan pour chacun d'entre vous aussi. Il veut vous préparer, puis il veut vous former. Dieu veut faire partie de tous les domaines de votre vie. Même dans les petites choses. Si vous demeurez en lui tous les jours et lui obéissez dans les petites choses, vous serez capable de vous fier à lui dans les grandes choses aussi. Donnez-vous pas des excuses. Dites pas que, « Ah non, je ne suis pas assez bon. Je suis pas... » Non, ce n'est pas pour moi. donnez-vous pas d'excuses. N'oubliez pas que chaque chrétien possède un don. Le mettez-vous en valeur? Bonne question. Réfléchissez. Mettez-vous en valeur le don que Dieu vous a donné? Troisième point, Dieu veut montrer sa gloire au travers des gens ordinaires. Dieu a gagné la bataille pour David. Puis même David le dit que c'est à l'Éternel. Mais le but ultime de Dieu, c'était de montrer sa gloire aux nations et aussi du fait que la bataille, c'est la sienne. Il est le Tout-Puissant et il dévoile sa gloire à tous ceux qui le voient. Rappelez-vous les paroles de David. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. David donnait toute la gloire à l'Éternel. David était avec Dieu et Dieu était avec David. Dans les petites choses comme dans les grandes. Il était avec lui quand il pratiquait avec sa fronde, puis il était avec lui quand il se battait contre l'ours puis le lion. David, il connaissait son Dieu, il lui faisait confiance, puis il croyait à ses promesses. Puis la même chose s'applique pour nous. Dieu veut que nous soyons en lui. Jean, chapitre 15, verset 5, nous dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'histoire de David nous montre que ce n'est pas parce qu'il était meilleur qu'un autre, qu'il était bon, qu'il était fort, qu'il était beau. C'est l'Éternel qui est bon, c'est l'Éternel qui est grand, puis c'est l'Éternel qui est fort. Puis l'Éternel veut que le monde le sache. Le but de Dieu dans cette histoire, c'était de montrer au monde entier, au travers des siècles, qu'il est le seul grand Dieu, tout-puissant. Mes amis, quand vous aurez à faire face à des géants, remettez-vous à Dieu. Mettez votre confiance en Dieu, puis il va accomplir ses desseins. Le fils aîné de Isaïe, Éliab, Saül, Goliath, les Philistins et probablement toute l'armée d'Israël étaient d'accord sur une chose. Le combat était inégal et David était le perdant.